Le personnage imaginaire par Robert Brasillach. Au moment où commence cette histoire, les placards de publicité littéraire disaient d'Henri Martial qu'il était en pleine possession de son talent. La confidente l'avait révélé au grand public quelques années après la guerre. Une grosse fortune personnelle, ou plutôt celle de sa femme, le mettait à l'abri des caprices du public. Spirituel, un peu vulgaire, il plaisait généralement aux femmes. Un commencement de calvitie lui faisait un front intelligent, et il jouait en maître de beaux yeux noirs et d'une ride volontaire entre les sourcils. C'était d'ailleurs un homme adroit qui savait profiter de la mode et de la bêtise générale des hommes. D'autre part, une langue sinueuse et précise, dont on devinait qu'il aurait pu faire meilleur usage, lui conciliait l'estime des lettrés, malgré la facilité de ses intrigues et son trop universel succès. Ce soir-là, Henri Martial recevait. Il y avait foule dans son hôtel de la Muette, bâti sur les plans d'un des plus réputés de nos architectes d'avant-garde. Après le jazz band nègre, devenu vieux jeu, Henri Martial tentait d'acclimater la musique jaune. Cet anamite, vêtu de satin noir, jouait sur des instruments encore inconnus de tristes et discordantes chansons qu'un adroit metteur en ordre avait rapprochées des rythmes habituels, tango, one step et Boston. Madame Martial, qui n'était plus très jeune, la calomnie n'affirmait-elle pas qu'elle avait 6 ans de plus que son mari, mais encore fort belle, recevait avec une grâce imposante, vêtue d'un noir luxueux, surchargée de bijoux comme une idole barbare, et son mari flirtait avec des beautés moins solennelles. Le cœur des critiques oubliait le succès de son dernier roman, La fraîcheur morte, et l'on se montrait le plus sévère d'entre eux, fortement amadoué par le champagne qu'il avait bu en abondance. C'est vers 3 heures du matin que le romancier réussit à entraîner enfin dans un coin d'ombre la jolie Aimée Walla, une égyptienne de 22 ans qui venait de divorcer. La fenêtre était ouverte sur la nuit étoilée. Elle fournit à Martial une phrase d'introduction. « Nous regarderons les étoiles et je vous montrerai la mienne. » Aimée Walla sourit. « Vous savez où est votre étoile ?»« Mais oui, » assure Martial. « Tenez, c'est cette grosse là-bas, un peu au-dessus de l'arbre. » Il pointa du doigt au hasard l'étoile qui lui parut la plus belle. Mais Aimée Walla le regarda sérieusement. « J'avais cru que vous parliez avec sincérité, mais vous ne connaissez pas les étoiles. Oh oh ! J'oubliais que vous êtes du pays des mystères. Fille de Pharaon, serais-je maudit pour avoir osé vous approcher ? Il faut m'apprendre le secret des étoiles. Pourquoi plaisanter ? Vous ne savez pas ce que vous dites. Chaque homme en naissant est soumis aux étoiles. Chaque destinée est écrite d'avance par la place qu'occupaient dans le ciel les étoiles et les planètes au jour et à l'endroit de la naissance. Dites-moi l'avenir, jolie sorcière. » Aimée Walla n'était sans doute une sorcière que pour rire, car elle ne s'offensa point, mais très malignement. « Dites-moi votre date de naissance. » Il faut vraiment. C'est qu'il y a si longtemps, voyez-vous, j'ai oublié. » Car Henri Martial n'avouait pas qu'il avait dépassé la quarantaine, et tous deux se mirent à rire. « Eh bien, faisons un pacte, mademoiselle la sorcière. Je veux bien, monsieur le romancier. Je vous donnerai une date, un lieu de naissance, et vous me ferez le thème astral. » C'est ainsi que vous dites, n'est-ce pas, dans vos sabbats? Vous me ferez le thème astral d'un personnage imaginaire, me direz ce qu'il arrivera dans sa vie. J'écrirai l'histoire de ce personnage exactement comme vous l'aurez voulu, et je vous la dédierai. Je publierai ça avec le sous-titre « Biographie imaginaire d'après les documents de l'époque ». Ça va? Vous avez donc si peu d'imagination? Méchante! Ne voyez-vous pas que c'est pour vous associer à mon œuvre? Entendu. Quelle date? Quel endroit? Parce que vous savez que la place des étoiles change suivant le lieu, l'heure et le jour. Eh bien, voyons. On demande le thème astral de Népomucène Tartampion, né à Carpentras, le 7 octobre 1891, à 4 heures du matin, 44 minutes. Promis, vous l'aurez dans 2 jours. Mais venez danser ce tango. Je trouve votre orchestre anamite une idée étonnante. 2 jours après, Henri Martial trouva dans son courrier une lettre d'Aimée Walla. Voici ce que disait la lettre. « Mon cher ami, voici le thème astral que je vous avais promis. J'ai rappelé à moi toute ma science ancienne et consulté les livres les plus doctes. Vous pouvez avoir confiance dans les astres, ils ne mentent jamais. » Le personnage imaginaire est né sous des signes particulièrement étranges. Je vous épargnerai le jargon des spécialistes et ne vous dirai pas quel astre était en sextile avec Uranus et comment la maison de Jupiter a été maléficiée. Qu'il vous suffise de savoir que, devenu prématurément orphelin, Tartempion a été élevé par un vieil oncle franc-maçon qui a voulu l'initier très tôt au premier rite des loges. Je vois en effet sur lui le signe des initiés. Il a été très malheureux durant toute sa jeunesse, qu'il fut assez bizarre, comme vous pouvez le penser. Il a peu de volonté, un tempérament morose, se décourage facilement et déteste sa famille et les croyances de sa famille. Il n'a jamais quitté Carpentras. En 1912, après avoir été ajourné, il est parti pour son service militaire aux colonies. Le thème astral insiste sur voyage, et je ne sais trop comment a passé toute la guerre en prison. Les astres ne me permettent pas d'éclaircir ce mystère. Après la guerre, il s'est marié avec une jeune femme qui est morte 2 mois après le mariage. Il a alors tenté de se suicider sans y parvenir. Depuis, il s'est résigné mélancoliquement à son sort. Il a une situation qui lui permet de vivre sans luxe. Il s'est converti au catholicisme lors du passage d'un missionnaire en 1924. Mais voici qui est plus intéressant. Sa vie doit croiser la vôtre à un moment qui est assez proche. Alors se reproduiront simultanément dans le ciel les signes qui accompagnèrent votre naissance, la sienne, et le jour où le personnage imaginaire tenta de se suicider. Ce moment doit se terminer par une catastrophe pour le romancier et son personnage. Ceci doit se passer au plus tard dans 2 ans. Je ne vous ai trompé en rien, mon cher ami, mais méfiez-vous des curiosités trop insolentes et des railleries envers les astres. Souvenez-vous pourtant que les astres inclinent, mais ne nécessitent pas. Je ne saurais donc trop vous dissuader d'écrire l'histoire d'un aussi dangereux personnage. L'intérêt littéraire en serait d'abord tout à fait mince, et cette aventure, abracadabrante, ne rencontrerait aucun crédit. Et puis, il pourrait vous arriver les pires événements. Croyez-moi bien votre ami, et craignez les étoiles. Aimé Ouella. Il ne cessait pas de tenir la lettre à la main. Il revoyait la soirée de l'avant-veille, la nuit étoilée, et se rappelant maintenant les plaisanteries astrologiques. Elle est complètement piquée, cette fille. Naturellement, 15 jours après, Henri Martial était en train d'écrire l'histoire du personnage imaginaire. À un déjeuner de littérateurs, on demanda au triomphateur du jour, la fraîcheur morte promettant de dépasser le succès des autres romans de Martial, ce qu'il comptait nous donner. Il hésita quelques secondes avant de raconter le sujet dont il s'occupait. Sans doute le trouverait-on ridicule, mais bon. « C'est très curieux, » dit Jacques Cartier. « J'ai vécu autrefois pendant 2 ans à Carpentras lorsque je n'avais pas encore quitté l'université. Quelle ville d'ailleurs! On devine, rien qu'à y passer, qu'on y fabrique des berlingots. Tout y est poisseux et fade. » Je n'ai naturellement rien entendu qui se rapporta à votre personnage imaginaire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de francs-maçons et qu'ils ont joué un rôle dans la politique locale. Je dois supposer que la personne qui vous a donné ce thème astral a connu quelques histoires de la région. Qui sait, voyez-vous, qui sait? À la place de notre ami, je me méfierais. Je n'ai pas peur des astres, s'écria Martial avec un rire. Mais avouez que c'est amusant. Et expliquez cela comme vous voudrez. Je ne puis pas me débarrasser de cette histoire. C'est... oui, c'est comme une hantise. Gare à la vengeance du personnage. Eh oui, peut-être. Gare à la vengeance du personnage, répéta Martial plus gravement. Sait-on jamais ce que nous pouvons faire lorsque nous créons un personnage? Goethe, en écrivant Werther, a bien armé le bras de plusieurs jeunes désespérés. René, Chatterton ont causé des suicides. Nos créatures deviennent indépendantes de nous et commettent des crimes. Les hommes de lettres présents laissèrent passer cet accès de philosophie avec un air entendu. Ils étaient d'ailleurs flattés de leur pouvoir, et jamais leur ironie n'eût songé à s'exercer sur ce sujet. Henri Martial venait de publier Gérard d'Auban, biographie imaginaire. Comme il l'avait promis, le livre était dédié à celle pour qui les étoiles ont dévoilé leurs maléfices. Mais la jolie égyptienne était partie pour une longue croisière en Méditerranée, et Henri Martial ne sut pas ce qu'elle pensait de son livre. Il avait fait de son héros un velléitaire, un mélancolique, du genre de ceux dont la littérature contemporaine a tant abusé. Il avait raconté avec son habileté coutumière l'enfance malheureuse de Gérard d'Auban, tel était le nom qu'il avait donné au mythique Tartempion, tracé un vigoureux portrait de l'oncle franc-maçon, tourmenté son héros de crises religieuses, de nostalgie vague, de désir de départ. La guerre, disait-il, fut accueillie par lui avec soulagement, car il pensait trouver la mort ou en tout cas des possibilités d'action. Mais la malchance le poursuivait, car fait prisonnier au Maroc au cours d'une bagarre avec des dissidents, il était resté enfermé dans les cachots d'un fortin de l'Atlas et délivré seulement à la paix. Cette œuvre nouvelle, malgré quelques épisodes que l'on jugea étranges, fut favorablement accueillie du public. La critique remarqua surtout un épilogue à la manière de Pirandello, où le personnage, prenant vie subitement, reprochait au romancier de lui avoir donné l'existence, se détachait de lui, et après avoir assassiné son créateur, allait commencer par le monde sa vie indépendante et lugubre. Il n'y eut guère que Paul Ternier, le sévère critique de l'époque, pour déclarer que c'était là de la philosophie au rabais et du lyrisme à 40 sous. Henri Martial ne s'était pas tout à fait astreint à suivre le thème astral d'Aimeuela. Entre autres choses, il avait supposé que la femme de Gérard n'était pas morte, mais qu'elle l'avait quittée, et c'était Gérard qui avait fait courir le bruit de sa mort. Maintenant qu'il avait fait son devoir d'astrologie, comme il disait, Henri Martial avait perdu toute inquiétude. La bizarrerie de certains passages n'avait pas détourné le public de sa nouvelle œuvre, et il songeait à préparer la fête traditionnelle de la 100e. Mais surtout, il se sentait étrangement délivré. Comprenez-vous cela? Il me semble que je suis guéri d'une oppression, d'une longue, lourde maladie. Toute œuvre d'art est une libération. Oui, oui, je sais. Mais jamais je n'avais eu pareille impression de calme, de repos. C'est le moment de la vengeance. Attention! Mais le rire d'Henri Martial était sans arrière-pensée. C'était un peu pour fêter le succès de Gérard Dauban, et aussi parce qu'approchaient certaines élections, qu'Henri Martial, 2 mois plus tard, donnait une autre réception splendide. Le jazz annamite, désormais célèbre, avait été renforcé. 11 musiciens impassibles déchaînaient la lourde tristesse, le grincement angoissé. Henri Martial se dépensait en sourire auprès de 3 jeunes filles irlandaises, blondes et bleues, qui riaient d'un rire aigrelet. Il les avait entraînées sur un divan, leur racontait des histoires qu'il voulait spirituelles. Elles étaient infiniment flattées de connaître un homme de lettres. « Oh, dit Marie, vous devez avoir beaucoup de bonne fortune. »« Oui, ajouta Kate, et après avoir fait souffrir les femmes, vous inscrivez les lettres amoureuses qu'elles vous envoient dans vos livres. »« sans doute, gentil Kate. » Et qui vous dit que dans un prochain roman, vous ne trouverez pas une jolie Irlandaise aux cheveux d'or, avec une très longue robe bleue et des joues enfantines, qui dira précisément les choses que vous dites ce soir. Ce serait indécent, monsieur, et indigne d'un gentilhomme. Si jamais je me retrouvais dans un livre, édicta Margaret, je crois que je voudrais tuer l'homme qui a fait cela. On me l'a prédit, enfant Margaret. On me prédit qu'un personnage imaginaire, entièrement imaginaire, vous entendez, s'animerait un jour et mettrait fin à ma vie. « Oh !» crièrent ensemble les 3 Irlandaises. Et de leurs pouces croisés, elles firent un geste pour conjurer le mauvais sort. Henri Martial caressa doucement leurs mains tendues. « Attendez-moi, les enfants, et soyez sages. Je vais chercher du champagne, vous voulez bien ?»« Oh oui, monsieur Martial !» Comme il allait retrouver les 3 jeunes filles, un inconnu, debout dans l'embrasure d'une fenêtre, s'avança. Il avait une figure fatiguée. Le maître de maison apprêta un sourire officiel et vaguement interrogatif. « monsieur Martial, commença l'inconnu d'une voix lasse, je serais très heureux d'avoir une minute d'entretien avec vous. Oh, rassurez-vous, une minute seulement. » « Mais c'est que, objecta Martial, embarrassé avec ses 2 bouteilles dans les bras, « je vous en prie, monsieur, c'est important, c'est important. » répéta l'inconnu de sa même voix fatiguée. « Eh bien, monsieur, nous allons voir ça. » Martial sourit aimablement, posa ses bouteilles sur un coin de la table et entraîna l'inconnu près de la fenêtre. « Vous m'excuserez de vous demander de me rappeler votre nom. Il me semble bien vous avoir rencontré déjà, mais... Non, vous ne m'avez jamais rencontré. Je me nomme René Bernac. Ça n'a pas d'importance. » L'inconnu se tut. Martial commençait à être gêné. « Enfin, monsieur Bernac, » commença-t-il, mais sans paraître l'écouter, l'inconnu lentement demanda. « Pourquoi avez-vous dit qu'elle n'était pas morte ?» Et il saisit la main de Martial stupéfait. Il parlait maintenant plus vite, comme pour se décharger d'un coup. « Voyez-vous, monsieur, je me suis introduit ici, Oui, je ne sais pas comment j'ai eu l'audace et le courage pour arranger cela.
Je me suis procuré votre adresse. J'ai su que vous donniez cette fête.
Il me fallait vous voir, monsieur.
Je suis Gérard Dauban.
Vous êtes ?
Oh, n'ayez crainte, je ne suis pas fou. Je lis très peu, monsieur. Mais j'avais vu votre livre violemment attaqué dans mon pays, parce qu'on disait que vous aviez ridiculisé la ville.
Je ne sais pourquoi je l'ai lu.
Je me suis reconnu. C'est moi, Gérard Dauban.
On vous aura sans doute raconté mon histoire.
Tout y est, tout. L'oncle Joseph et le missionnaire et...
Je vous jure, monsieur,
ne vous défendez pas, monsieur. Ça n'a aucune importance. Croyez bien que s'il ne s'était agi que de moi, je ne serais pas venu vous trouver.
Un sujet ou un autre, je sais bien qu'un romancier...
On vous aura dit mon histoire et vous l'aurez trouvée curieuse. Seulement, il faut me dire où elle est.
Henri Martial écoutait à peine. Trois mots tournoyaient dans son esprit. Il les lisait sur cette nuit, sur ses rideaux, sur ses murs, sur le visage de cet homme.
Le personnage imaginaire. Le personnage imaginaire. Le personnage imaginaire.
Elle, qui elle ? Demanda-t-il avec effort.
Elle, ma femme ? Vous avez dit qu'elle n'était pas morte, qu'elle vivait.
Il eut une espèce de sanglot et reprit avec force.
Ma femme, monsieur, comprenez-vous cela ? Je ne l'ai pas vue sur son lit de mort. J'étais en voyage.
Toujours les voyages m'ont porté malheur.
Elle est morte chez sa mère, m'a-t-on dit.
Je suis arrivé après l'enterrement.
Maintenant, vous venez dire qu'il n'y a pas eu d'enterrement, qu'elle n'est pas morte, que c'est moi qui ai inventé tout cela.
Mais ce n'est pas moi, monsieur.
Moi, je croyais qu'elle était morte. Alors j'ai compris. J'ai compris qu'on m'avait trompé et que vous, vous saviez la vérité.
La personne qui vous a raconté mon histoire sait la vérité.
Vous savez peut-être où elle est maintenant, ma femme, quel est le nom qu'elle a pris. Et c'est ce que je suis venu vous demander.
Henri Martial avait repris ses esprits.
Mais, mon pauvre ami, c'est de la folie.
Je n'ai jamais entendu parler de vous ni de votre femme. Mon roman n'est qu'un roman.
Et puis, vous devez bien savoir si votre femme est morte.
Vous devez bien savoir...
Vu des actes de décès, que sais-je ?
Oui, sans doute.
Eh bien, on ne fabrique pas des actes de décès si facilement. Alors pourquoi avez-vous dit qu'elle n'était pas morte ?
Pourquoi ?
Mais je sais qu'elle est vivante, j'en suis sûr, il me faut savoir où elle est.
Enfin, je ne vous connais pas.
Je me tue à vous dire que je n'ai jamais entendu parler de vous.
L'inconnu eut un pâle sourire.
Gérard Dauban, né à Carpentras, le 7 octobre 1891, au petit jour... René Bernac, né à Carpentras, le 7 octobre 1891, à la même heure. Vous ne vous êtes même pas donné la peine de changer la date. L'enfance pareille, l'oncle Joseph, le mariage malheureux, la guerre.
À qui ferez-vous croire ?
Mais je vous jure que j'ai choisi cette date absolument au hasard, que...
Henri Martial s'arrêta. Il venait de s'apercevoir que jamais, en effet, il ne ferait croire une chose pareille à René Bernac. Il fut sur le point de lui parler du thème astral, mais songea qu'en un moment aussi grave, ce serait ridicule et surtout invraisemblable.
Mon cher monsieur Dauban,
pardon,
voyez bien que vous-même vous confondez.
Il y eut un silence. Le salon s'était à peu près vidé. Tout le monde dansait. Il ne restait plus que ces deux hommes qui parlaient à voix basse dans l'embrasure d'une fenêtre.
Non, il faut me dire son adresse.
Reprenait le personnage d'une voix monotone.
« Il faut me dire son adresse. Je vous assure que je ne partirai pas sans ça. Je souffre trop depuis que je lis votre livre. Vous devez savoir, il faut me dire. »
Henri Martial n'écoutait plus.
« Voilà la vérité, songeait-il. Je comprends. Et il ne faut pas jouer avec les astres. Cette date, ce nom de ville, c'est moi qui les ai choisis au hasard. Pas de supercherie possible. » Il s'est trouvé un être qui était né à cette date dans cette ville.
J'ai voulu jouer avec les astres.
Il s'est trouvé un être, a aimé où elle a interrogé les étoiles, et elles lui ont dit docilement la vie de cet homme, comme il était naturel. C'est irréfutable. Il n'y a que moi qui ai choisi la date et le lieu.
Une date, un lieu, et toute une vie s'en déduit.
Il se répétait toujours ces mots.
Une date, un lieu.
Et ne faisait attention à rien d'autre.
Il n'entendait pas la voix monotone du personnage demander.
Alors, vous ne voulez pas me dire qu'elle est vivante ?
Il ne voyait pas sa main hésitante fouiller dans une poche et en sortir un revolver.
Ainsi s'achève Le personnage imaginaire par Robert Brasillach.